France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous évoquerons la figure de Marcel Aimé, disparu en 1967, il y a 50 ans. Marcel Aimé adorait la chanson, il fréquentait le Lapin Agile, il a écrit une comédie musicale avec Guy Béard. Autant de bonnes raisons d'évoquer en musique ce grand écrivain, en compagnie de son biographe Michel Lécureur, qui sera mon invité dans quelques minutes. En fin d'émission, place au rythme et aux orchestres de Serge Laïc. Mais commençons en cette veille d'élection par écouter ce qui attend le futur locataire de l'Élysée, s'il savait le malheureux.
Dans le palais de l'Élysée, entre cour et jardin anglais, derrière la croisée, il y a un prisonnier qui doit bien s'amuser. Personne ne l'y va voir, à part des tas de gens dont il n'avait jamais vu la poire. Que la fille du portier qui vient faire ses souliers. Un jour, dit la légende, c'était un soir d'espoir. Un jour, il lui demande la clé du cloisonneur pour aller prendre l'air. Fais-tu sa redingote et ses croquenots départementaux, à minuit lui se trotte, sans même dire adieu, par la porte des lieux. Une fois dans la rue, en déguisant son bel accent, et malgré l'air indue, il se met à chanter « Vive la liberté !» Même instant, il saute, un de ses agents le rattrapant par le fond de sa culotte, lui dit à cette heure-ci, les braves gens sont au lit, sous l'œil de la police, sans rouge pété, il dut rentrer par l'escalier de service, en se répétant en cœur, le jeu ne fait pas le bonheur. Dans le palais de l'Élysée, entre cour et jardin anglais, derrière la croisée, il y a un prisonnier qui doit bien s'amuser.
Le prisonnier de l'Élysée, une chanson de Vincent Hispa, qui était une grande figure du café-concert et aussi d'ailleurs un ami d'Éric Satie. C'est extrait du disque Votez pour moi par la clique des Lunésiens et le chanteur Arnaud Marzorati, que j'aurai d'ailleurs le plaisir de recevoir ici dans quelques semaines.
We'll be right back. Alors, monsieur. Merci beaucoup. Vive la France.
Et vous tous, chers auditeurs qui, comme moi, adorez Pérez Prado, le roi du mambo, je vous recommande de vous précipiter sur cette compilation qui vient de paraître chez Marianne Melody, 2 CD pour tous les enregistrements de Pérez Prado de 1950 à 1961. Ce merveilleux musicien mort en 1989 qui a été le roi du mambo en Amérique latine, mais aussi en France. Il a beaucoup joué à Paris, d'où la note un peu parisienne de ce mambo que vous venez d'entendre et qui s'intitule d'ailleurs Paris.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité pour évoquer, je vous le disais, Marcel Aimé, ce merveilleux écrivain du passe-muraille, de la traversée de Paris, de beaucoup de jolis contes pour enfants et autres, ce grand écrivain qui aimait aussi la chanson, il fréquentait le Lapin Agile, il a écrit lui-même beaucoup de paroles de chansons, et à l'occasion de la reparution de sa biographie, eh bien c'est le biographe de Marcel Aimé que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à France Musique, monsieur Michel Lécureur.
Ne tirez pas le diable par la queue, ça lui fait mal en diable, en diable, en diable, ça lui fait mal en diable, vous le rendrez grincheux. N'est-il pas préférable d'avoir le diable au corps? Au fond, c'est un bon diable, bon diable, bon diable, au fond, c'est un bon diable qui nous met tous d'accord. Le diable a croisé Marion sur le chemin de sa maison, elle était vêtue de guenilles. Il a dit que tant belle fille devrait rouler carrosse dorée avec serviteur en livrée. Devrait rouler carrosse dorée avec serviteur en livrée. Ne tirez pas le diable par la queue. Ça lui fait mal en diable, en diable, en diable. Ça lui fait mal en diable, vous le rendrez grincheux. N'est-il pas préférable d'avoir le diable au corps? Au fond, c'est un bon diable, bon diable, bon diable. Au fond, c'est un bon diable qui nous met tous d'accord. Mon beau monsieur fit Marion, comment croyez-vous que je ferions? Apprenez d'abord que mon père, il n'est qu'un pauvre garde-barrière. Bel enfant, je veux vous aider, c'est très simple, jouons au dé. Bel enfant, je veux vous aider, c'est très simple, jouons au dé. Ne tirez pas le diable par la queue. Ça lui fait mal en diable, en diable, en diable. Ça lui fait mal en diable, vous le rendrez grincheux. Si je perds à vous la fortune, je vous servirai sans rancune. Si je gagne, je prends votre âme. Croyez-moi, ce n'est pas un drame. Et vos parents ne sauront rien là, mais ceux qui se voient le moins. Et vos parents ne sauront rien là, mais ceux qui se voient le moins. Ne tirez pas le diable par la queue. Ça lui fait mal en diable, en diable, en diable. Ça lui fait mal en diable, vous le rendrez grincheux. La Marion tint le pari, ce fut le diable qui perdit. 3 mois il fut à son service. C'était justement la malice. À la fin il eut pour de bon prix l'âme de la Marion. À la fin il eut pour de bon prix l'âme de la Marion. N'est-il pas préférable d'avoir le diable au corps? Au fond, c'est un bon diable, bon diable, bon diable. Au fond, c'est un bon diable qui nous met tous d'accord.
Guy Béard dans « Me tirez pas le diable ». Bonjour Michel Lécureur.
Bonjour.
Évidemment, tout le monde a reconnu la voix de Guy Béard, mais on ne sait pas forcément que là, c'est une chanson sur des paroles de Marcel Aimé, parce que Marcel Aimé a composé finalement pas mal de chansons.
Tout à fait. Et des chansons de qualité.
Des chansons de qualité, dont certaines sont restées populaires, oui. Comme « La Chabraque ».
Oui. Le Jardin d'Elvire aussi.
Le Jardin d'Elvire. Beaucoup avec Guy Béard et oui. Beaucoup à l'occasion, on y reviendra tout à l'heure, d'une comédie musicale. Hein.
Alors, initiée par Zizi Jean Mère et Roland Petit dans les années 60, voilà. Et qui avait comme argument l'existence au ministère des Finances d'un gang de voleurs pour trouver facilement de l'argent et remplir les caisses de l'État.
C'est drôle, ça peut résonner avec finalement certains aspects de l'actualité, si on veut.
Ça ne me permettrait pas.
En tout cas, voilà, ça s'appelait Patron, oui. Et pour l'occasion, Béard a écrit des chansons sur les paroles de Marcel Aimé. Ça, effectivement, on y reviendra, mais je suis heureux aussi de vous recevoir parce que vous êtes le grand spécialiste de Marcel Aimé, merveilleux écrivain que j'adore, qu'on est nombreux à adorer. Et dont on va célébrer
le 50e anniversaire de la disparition, puisqu'il est mort en 67.
Pardon pour les 68 arts qui nous écoutent, il a eu la chance de ne pas connaître 68, je ne sais pas s'il aurait tellement aimé.
Je ne pense pas, non.
Ce n'était pas trop son état d'esprit.
Non, pas tout à fait, non.
Mais en 67, donc, il a disparu, donc il y a 50 ans. Et est-ce que je me trompe, Michel Lécureur, j'ai l'impression que par rapport à d'autres gloires de la nation, n'est-ce pas, il n'y a pas tellement de commémorations, d'événements organisés pour cet anniversaire.
Non, vous êtes dans le vrai. C'est vrai que je regrette évidemment, personnellement, qu'on ne se mobilise pas beaucoup plus autour de Marcel Aimé.
Et comment vous expliquez ça ?
Eh bien, je pense qu'il traîne toujours après lui une certaine réputation qu'il dessert. Alors Céline est servie par sa réputation sulfureuse et Marcel Aimé est desservi par une certaine réputation qu'on lui fait à tort.
Alors qu'il est beaucoup plus difficile à classer que ce qu'on pourrait croire, notamment politiquement. Vous avez même écrit tout un livre récemment, au début de l'année, pour essayer de nous expliquer justement, on peut dire, la subtilité des positions de Marcel Aimé. Ça s'intitule « Marcel Aimé devant l'histoire ».
Tout à fait. Oui, oui. Et non, Marcel Aimé est quelqu'un qui est toujours resté très indépendant d'esprit. Voilà. Et même quand il a signé des articles, parce que c'est ce qu'on lui reproche, dans des journaux de l'occupation, il était resté libre au point même de défendre la cause des écoles normales instituteurs que le gouvernement de Vichy voulait fermer.
Encore l'indépendance de l'Algérie dans les années
plus tard,
60.
Oui, l'indépendance de l'Algérie. Pour lui, l'Algérie devait être algérienne, point, c'est tout.
Voilà, peut-être qu'on aime trop les cases en France et on n'arrive pas à le caser.
Je crois, oui.
Vous-même, Michel Lécureur, vous êtes tombé dedans tout petit ?
Oui, tout petit. Oui.
C'est quand j'étais étudiant. Les contes de Marcel Aimé, non ?
Non, quand j'étais étudiant, c'est la lecture de La tête des autres qui m'a fait conclure et sentir qu'on avait là un humaniste. Ouais. Au sens total du terme, alors qu'il traînait des casseroles derrière lui, et j'ai voulu en savoir plus, et de fil en aiguille, j'en ai fait plus.
Vous avez lu La Jument Verte, voilà. Le Passe-Muraille, Travelingue, Le Vin de Paris, toutes ces merveilles, ouais. Et vous avez même réalisé l'édition de La Pléiade.
C'est ça, voilà.
Voilà, bah écoutez, on est heureux d'être avec vous, alors... On va suivre Marcel Aimé, évidemment, en musique. Et on va commencer tout de suite par une chanson de 1934 qui est extraite du film La rue sans nom, tirée d'une des premières œuvres importantes de Marcel Aimé.
Dans la petite rue, les vieilles maisons cachent le ciel par leur toiture. On ne reconnaît les saisons aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale et sans trottoir, les moineaux, les gosses, tout s'appioille. Ce qu'on peut s'y amuser pour voir, j'étais l'aîné de toute une marmaille. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. Dans un coin noir, un joli blond m'avait embrassé par surprise. J'étais contente de cette leçon. La leçon d'amour, je l'ai bien comprise. Il ne m'a pas fallu plus de temps pour apprendre l'art de la toilette. J'avais tout juste 15 printemps et toute la rue perdait la tête. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. Une belle môme ne reste pas là. Loin de ma petite rue, je promène ma bosse. Mais ça durera ce que ça durera. Quand j'en aurai marre de la noce. Un jour je m'en irai comme mes vieux. Pour expier ma vie de pécheresse. Je retournerai parmi les gueux. Dans la petite rue de ma jeunesse. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventure. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon.
On a reconnu Fréhel, évidemment, en 1933, au moment où elle enregistre « C'est la rue sans nom », qui va servir donc dans le film « La rue sans nom », tiré du roman éponyme de Marcel Aimé, Michel Lécureur. Un Marcel Aimé qui a tout juste 30 ans, là, en 33-34, et qui est déjà adapté au cinéma.
Oui.
Ce qui veut dire que sa carrière a commencé de façon assez brillante.
Tout à fait, tout à fait. Le point de départ, ce que je n'avais pas mesuré dans ma biographie précédente il y a 20 ans, ça a été le prix Renaudot en 1929 pour La table crevée.
Voilà.
Et je n'avais pas bien mesuré combien ça l'avait propulsé sur le devant de la scène.
Voilà.
Et ça l'avait propulsé à un point que les journalistes l'ont interrogé sur tout et sur n'importe quoi, sur la dépopulation des campagnes, sur son sentiment à l'égard de l'élection présidentielle de 1930, ou sur ses rapports avec le cinéma.
Voilà, ça veut dire déjà un personnage public, au fond.
Un personnage public et qu'il est resté jusqu'en 39.
Lui qui aimait si peu parler et s'exprimer sur lui-même.
Oui, mais que l'on sollicitait beaucoup pour des articles ou pour des interventions au cinéma.
Alors ça, c'est son troisième roman ou quelque chose comme ça, La rue sans nom. Et il est adapté donc au cinéma par Pierre Chenal.
Oui.
Et on peut dire, il obtient d'ailleurs le prix du roman populiste. C'est un roman social qu'on pourrait dire entre guillemets de gauche.
Alors, c'est un roman social de gauche qui n'a pas obtenu le prix du roman populiste, contrairement à ce que l'on croit et ce que l'on raconte parfois. Il est passé à côté. Hein. Il a été très bien reçu par la presse, il a été encensé, il a beaucoup plu à Pierre Chenal qui a demandé à Marcel Aimé de faire les dialogues pour son film, et il a contribué à lancer Marcel Aimé après La table crevée. Mais c'est tout. Mais c'est un film qui en a fait, bien sûr, un homme de gauche.
Voilà, parce que alors, ce que vous expliquez dans votre livre, qui est très complexe, d'abord, déjà dès l'enfance, Marcel Aimé grandit dans une famille qui est plutôt anticléricale, à tendance socialisante, et il est confronté à des enfants qui, eux, sont du milieu opposé, et il en ressent une espèce de frustration, donc il ne se sentira jamais tout à fait à l'aise, ni dans le milieu catholique, ni dans le milieu anticlérical, finalement.
C'est cela, je trouve qu'il a été très marqué, parce que c'était un homme d'une très grande sensibilité. Il a été très marqué par cette enfance dans un village, Villers-Robert, au sud de Dole, dans le Jura, où la population était coupée en deux. Bon, la France a toujours été coupée en deux.
Comme dans Camillo, quoi.
Voilà. Enfin, voilà. C'est ça. Le village était coupé en deux, avec d'un côté les cléricaux et de l'autre les radicaux socialistes qui vomissaient les cléricaux. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que entre gosses, il y avait des moments où ils faisaient la fête, où ils jouaient ensemble quand même. Tout ça, c'est très nuancé. Il ne faut pas donner dans le schématisme.
ça l'a beaucoup marqué. Et du coup, finalement, il a toujours essayé d'affirmer sa position en dehors des clivages obligés, des cases, justement, des sectes et des...
Oui, alors, c'est un homme libre d'esprit, voilà, qui voilà, se veut ça. Très libre, et qui commence avec l'image de gauche dont on parlait tout voilà. à l'heure.
Et qui va choquer tout le monde au moment de l'affaire de l'Éthiopie, voilà. Où Mussolini et l'Italie veulent intervenir en Éthiopie. A priori, toute la gauche est pour l'intervention, et voilà. Marcel Aimé, lui, est contre, ce qui va évidemment surprendre, voilà. d'une certaine façon, ses amis.
Voilà, grosso modo, la gauche est pour des sanctions contre l'Italie qui
fasciste,
a envahi l'Éthiopie.
Bien sûr, oui. hein.
Et d'autre part, la droite et l'extrême droite sont contre les sanctions parce qu'ils craignent la guerre et ils sentent monter la Seconde Guerre mondiale. Et Aimé réfléchit bien, hésite beaucoup, et finalement, il met sa signature au bas du manifeste de droite et d'extrême droite, ce qui lui vaut une volée de bois vert d'un certain nombre de gens.
Voilà, mais par pacifisme, comme beaucoup
pacifisme.
De gens de cette époque. Et c'est cette image qui va ensuite, d'une certaine façon, le poursuivre, même s'il continuera à écrire là où il veut, comme il veut,
Exactement.
Et Exactement. En toute liberté. Et entre-temps, donc, Marcel Aimé connaît des succès de plus en plus importants. Et l'un d'entre eux, ça va être La Jument Verte, qui sera, elle aussi, adaptée plus tard au cinéma. On va retrouver un peu de la musique du film d'après-guerre de René Cloërec.
Il y a enfin un Marcel Aimé romancier qui, de notre but, a fait un monde d'humanité surnaturelle. Il y a Marcel Aimé, auteur dramatique, dont Lucienne et le Boucher revivent chaque soir sous les bravos du public parisien. Il y a Marcel Aimé, illustre Montmartre III, qui est l'homme le plus modeste et le plus discret que je connaisse sur la butte et ailleurs. Voici Marcel Aimé.
Je m'étais toujours promis de ne pas parler à la radio. Je m'étais promis aussi de ne jamais écrire ou parler publiquement de Montmartre. Mais mes résolutions ont dû céder à des pressions amicales et je me trouve devant le micro, très embarrassé, sans avoir grand-chose à dire. Les séductions et les curiosités de la butte ont été souvent et copieusement célébrées. Chacun sait maintenant que Montmartre est un charmant village plein de peintres, de vin blanc, d'amitié et de cancan. Je ne peux qu'en tomber d'accord. Ce qui me met un peu à l'aise pour parler, c'est que je suis au Lapin Agile, le fameux cabaret conservatoire Montmartre de la chanson. Avant de venir, j'étais d'abord passé avenue Junot à l'atelier du peintre Eugène Paul qui peignait, les manches retroussées, l'œil étincelant, à grands coups de pinceau comme s'il se ruait à l'abordage d'un vaisseau. Nous avons échangé des souvenirs sur les années pré-14e et il m'a raconté l'histoire d'une belle fille de l'impasse traînée qui, ayant perdu toutes ses dents au cours d'une bagarre, se confectionnait des râteliers en mie de pain pour aller faire le trottoir boulevard de Clichy. Il faut dire que dans ce temps-là, nous avions du pain blanc.
Voilà, ça c'est Marcel Aimé au Lapin Agile, parce qu'il y a évidemment ce personnage de Montmartre qu'il est devenu, même s'il est originaire du Jura. Oui. Et ici, donc, dans un texte qu'il a sûrement écrit, puisqu'il le lit d'une façon très élancée, avec cette voix étonnante, musicale, hein, Michel
ouais,
Lécureur.
Très curieuse.
C'est juste à côté de chez lui, en fait.
Ah oui, c'est tout à fait à côté de chez lui. Hein. Il habitait rue Paul Féval, c'est une rue qui est derrière le Lapin, et il avait des fenêtres qui donnaient sur les vignes de Montmartre, qu'on voit encore de nos jours, et le Lapin Gilles est juste là, à côté.
Et puis le cimetière Saint-Vincent, d'ailleurs,
oui.
où il est enterré.
Il est enterré au cimetière Saint-Vincent, voilà. oui.
Donc il a été toute sa vie un personnage de Montmartre vraiment très emblématique, connu dans certains bistrots du quartier, etc. Comme d'ailleurs ici de Jean-Paul, c'est vraiment une figure de cette butte. Hein.
Ah, c'est une figure très pittoresque et très connue de Montmartre parce que il avait des habitudes bien précises. Tous les matins, il sortait se promener dans Montmartre. Et là, il observait les gens qui allaient, qui venaient. Et puis, il allait jouer au 421, il allait jouer aux cartes, il allait boire... un verre avec des amis. Et
on retrouve d'ailleurs ce décor hein, dans le Passe-Muraille, dans beaucoup de nouvelles.
Tout à fait. Oui. Oui, c'est tout à fait le décor du Passe-Muraille.
Voilà, exactement, oui. Et dans le Passe-Muraille, il y a d'ailleurs également pas mal de nouvelles inspirées par la situation de l'occupation, notamment cette nouvelle qui s'appelle La Carte, sur les cartes de rationnement, où l'on voit les malheureux juifs qui sont plus maltraités, évidemment, que tous les autres. Et où on voit, d'ailleurs, ils se moquent même un petit peu dans cette nouvelle, de, justement, de Céline qui éructe, etc. Donc on voit que même dans cette période de l'occupation, Marcel Aimé a gardé une espèce de distance, même s'il a publié des nouvelles dans Je suis partout, qui est évidemment un journal proche de la collaboration. En même temps, il est resté tout à fait éloigné des événements.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Céline lui en a voulu un temps, parce qu'il l'avait fait participer à une nouvelle en vociférant contre les Juifs. Céline disait « Oh, c'est encore un coup des Juifs !» écrit Marcel Aimé, à peu de choses près. Mais certainement qu'il était de mauvaise humeur, ajoute Marcel Aimé, toujours en prenant une distance par rapport à ce qu'il raconte.
Donc toujours cet homme incalassable qui avait aussi d'ailleurs participé à certaines fêtes du Front Populaire, hein, juste avant la guerre.
Alors oui, justement, ça a été très curieux pour moi de retrouver et de mentionner dans ma nouvelle biographie qu'il a été convié en 1937 avec 12 autres auteurs à la Comédie des Champs-Élysées pour commémorer la première année du Front Populaire. Ouais. Et c'était une manifestation initiée, pardonnez-moi du peu, par Léon Blum lui-même, au travers de Jacques Chabannes. Le nom de Jacques Chabannes doit vous dire quelque chose, je suppose.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, chez Marcel Aimé, une volonté aussi, d'une certaine façon, c'est pas de la provocation, mais de toujours avoir une position un peu décalée par rapport aux positions obligées, j'ai envie de dire.
Oui, il y a ce désir, il y a cette volonté, vous avez raison. Mais il y a aussi, chez Marcel Aimé, la réaction « on m'a sollicité, pourquoi refuserais-je ? » Ouais. « On me demande d'intervenir, pourquoi non ?» Et il y va.
Et puis, ce qui peut-être aussi va contribuer à façonner son image un peu de droite, comme ça, c'est qu'on a le sentiment que l'épuration, plus encore peut-être que l'occupation par elle-même, a été un des sujets centraux de son œuvre. Et il a quand même passé énormément de temps, avec un talent fou d'ailleurs, à dénoncer les excès de l'épuration. Ça a été finalement le moment clé, on peut dire, de son inspiration littéraire.
Oui, tout à fait. Et c'est parce qu'il a été très sensible à l'exécution de Brasillac en 45, parce qu'il le connaissait depuis longtemps. Brasillac était critique littéraire et appréciait l'œuvre de Marcel Aimé. Et les deux hommes s'étaient rencontrés, ils s'étaient invités mutuellement. Et indépendamment de ses idées qu'il ne partageait pas, il trouvait que c'était un excellent critique et qui plus est, un excellent homme de lettres. Et quand il a vu que Brasillac était donc en procès et qu'il allait être exécuté, puisque c'était vraiment couru d'avance, il a accepté volontiers la démarche de Mauriac, qui l'a chargé, lui, Marcel Aimé, de se tourner vers le monde des lettres, vers les auteurs, pour leur demander de signer une pétition de façon à sauver la tête de Brasillac. Il y a un moment mémorable avec Albert Camus où Albert Camus lui renvoie une très longue lettre de plusieurs feuillets et au dernier moment, il barre tout et dans la marge, il met « mettez mon nom quand même car je déteste la peine de mort ». Je vomis la peine de mort.
Mais cette épuration, on la retrouve d'une certaine façon dans La tête des eaux, dans Uranus et dans beaucoup d'œuvres de Marcel Aimé.
Voilà. Et dans beaucoup de nouvelles, il a mis en scène, et dans Uranus aussi, il a parlé de cette épuration, qui lui a causé du souci personnellement.
Lui-même n'a pas été mis en cause.
Alors, il a reçu en tout et pour tout, en 46, un blâme sans affichage, parce qu'il avait vendu pendant la guerre un scénario pour un film de très mauvaise qualité qui s'appelait Le Club des Soupirants, mais il l'avait vendu à la Continental Film, qui était une firme à capitaux allemands. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé pour la Continental pendant l'occupation, ont reçu un blâme. Et lui, il a reçu vraiment le blâme le plus léger que l'on pût recevoir à l'époque. Mais il a reçu ce blâme, et ça l'a beaucoup marqué. Je voudrais ajouter aussi qu'en 44 et en 45, en 44 notamment, en juillet 44, il a reçu des petits cercueils par la poste.
Ah oui.
Et puis des coups de fil chez lui, lui disant « attention, on descend avec le maquis et on va te faire la peau ».
Donc il était quand même ciblé là encore comme un personnage...
On peut se demander s'il n'y avait pas de mauvaise plaisanterie dans le coin, mais enfin bon.
En tout cas, on va retrouver une autre chanson maintenant de Guy Béard, parce qu'on va parler de l'après-guerre, de cette comédie musicale, notamment Patron, dans lequel figure ce merveilleux refrain intitulé « La Chabraque ».
Une blonde malabar, les yeux durs, je peux pas mieux dire la découpure. En plus de son accent chabrac, qu'avait Marika, la Polac, elle logeait rue du Pont aux Choux sous les toits avec un chien loup qui lui avait léché les mains un soir dans la rue Portefoin. La chabraque, avait de la défense et de l'attaque. La chabraque, avait un chien fou, un chien loup. Des années, elle est restée sage, elle supportait pas le badinage, ni des paumés, ni des richards. Je l'ai vu sonner à coups de riflard, un grossium du carreau du temple, qu'en pinçait pour ses 20 printemples. Et puis au square, elle s'est toquée d'un minable qui l'a reluqué. La chabraque, qu'avait de la défense et de l'attaque. La chabraque, qu'avait un chien fou, un chien loup. Il est venu rue du Pont aux Choux, ça pouvait pas plaire au chien loup. Tout de suite il a montré les dents, et quand il a vu le soupirant serré contre lui, la chabraque, il lui a sauté au colbac. Tellement la bête a mordu fort, v'là le minable saigné à mort. La chabraque, qu'avait de la défense et de l'attaque. La chabraque, qu'avait un chien fou, un chien loup. Les hirondelles qui pédalaient le long du boulevard Beaumarchais, sur le coup de 3 heures du matin, ont croisé une fille et un chien. Une grande bringue qu'avait l'air pressée, le chien la suivait, tête baissée. Dans la brume, ils se sont perdus. Et la chabraque, on l'a plus revue. La chabraque, qu'avait de la défense et de l'attaque. La chabraque, qu'avait un chien fou, un chien loup. La 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 la, la 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 la.
La Chabraque par Guy Béat, extrait donc d'ailleurs d'un disque de 4 chansons de Marcel Aimé et Guy Béat, dans lequel Béart, là, comme interprète, reprend les chansons qu'il avait écrites pour la comédie musicale Patron, on va y revenir, dans laquelle c'était d'autres interprètes qui les chantaient, ces chansons donc de Marcel Aimé. Je suis avec Michel Lécureur pour parler des 50 ans de la disparition de Marcel Aimé, et vous venez donc de publier Marcel Aimé devant l'histoire, où vous revenez, on en a déjà parlé, sur la complexité de la, du positionnement politique de Marcel Aimé, qui continue un peu à le poursuivre. Et puis vous publiez, Michel Lécureur, une nouvelle biographie donc de Marcel Aimé en 2 volumes chez Eddy Livre, de l'anonymat à la célébrité qui va jusqu'à la guerre, et de Marcel Aimé et les conflits de la guerre jusqu'à sa disparition en 1967. Alors, patron, bah, on va y arriver justement à cette comédie musicale, parce que il faut dire que Marcel Aimé, qui a connu avant-guerre donc un grand succès de romancier, va après la guerre devenir un auteur de théâtre à succès. Hein. C'est le, peut-être le principal changement qui arrive dans, à la fin des années 40.
Et puis surtout, c'est l'un de ses vœux les plus chers. Oui. Ça faisait tellement longtemps qu'il y pensait au théâtre. Depuis les années 30, il avait écrit pour le théâtre. Il avait cherché à faire représenter ses pièces sans succès. Oui. Il y a toute une correspondance à la Bibliothèque nationale avec Louis Jouvet, dans laquelle il sollicite Louis Jouvet pour que Jouvet accepte de le jouer. Et Jouvet trouve toujours un prétexte pour refuser. Et alors, après-guerre, ce n'est pas Jouvet qui monte ses pièces, c'est Douquine qui monte Vogue la galère, le premier.
Qui ne marche pas, d'ailleurs.
Ça marche pas, non. Mais c'est Lucien Elboucher après qui va marcher.
Voilà,
Lucien Elboucher, ça marche tellement bien que Jouvet se retourne vers Aimé et lui écrit: cher ami, j'espère que vous pourrez me réserver votre prochaine pièce. Et alors, j'ai lu une réponse de Marcel Aimé qui lui dit: mais cher ami, je suis tellement sollicité que je n'ai rien à vous proposer, mais je ne manquerai pas d'y penser, en substance.
Alors, les grands succès, ce seront évidemment La Tête des Autres et Clérambar, notamment.
Oui, oui. Oui, La Tête des Autres qui fait scandale, hein, en 52, puisque Clérambar, qui est très apprécié en 50, hein, qui est une pièce très curieuse sur, un peu sur la foi, en quelque sorte. D'ailleurs, il échange des correspondances avec des croyants qui après lui demandent d'écrire, notamment dans une revue de jésuites, et il se rétracte.
Avec toujours cet humour et ce fantastique, hein, voilà, qui est propre à Marcel Aimé. Vous aviez vu la reprise de Clérambar par Jean-Marie Bigard, il y a quelques années?
Ah non. Non, j'ai pas vu.
Non, vous l'avez pas vu. Je sais pas si ça a servi ou desservi.
Je sais pas.
L'auteur, ce décalage. Mais ça prouve en tout cas qu'on a toujours envie de le monter aujourd'hui.
Oui, 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 oui.
Donc, il va y avoir en 59 cette comédie musicale, Patron. L'idée vient de qui?
Probablement de Roland Petit. De Roland Petit et Zizi Jeanmaire, hein, probablement. Oui, qui se tournent vers Marcel Aimé, qu'ils admiraient au plus haut point.
Au plus haut point.
Et qui lui demandent des chansons. Parce que Marcel Aimé a toujours tâté un peu de la chansonnette. Hein. Il a toujours écrit des petites choses et des petits poèmes, des choses comme ça. C'est très curieux.
Il avait un goût de la chanson.
Oui, il avait un goût de la chanson.
Donc Marcel Aimé, avec Zizi Jeanmaire et Roland Petit, monte cette pièce au théâtre Sarah Bernard. Il y a aussi Bernard Buffet dans le...
Oui, pour les décors.
Pour les décors, donc c'est un événement parisien très important.
Oui, mais malheureusement, ça fait un four, parce que, je sais pas, peut-être qu'à l'époque, la comédie musicale en France, comme on dit, n'était pas suffisamment appréciée, je ne sais pas.
Et alors, la rencontre avec Guy Béard, elle se produit à cette occasion?
Oui, ça se produit à cette occasion, Et ils sont estimés mutuellement aussi, hein. D'ailleurs, c'est Guy Béard qui m'avait prêté le texte de Patron pour que je puisse l'éditer dans les cahiers Marcel Aimé.
Ah oui, parce que le texte, évidemment, n'existe pas en volume.
Le texte était parti. Non, non, ça n'était pas en volume. Non. C'était complètement disparu. Et en cherchant, je me suis adressé un jour à Béard qui m'a dit « Mais oui, mais moi, je l'ai. Et je vais vous le prêter.
» Bah écoutez, on va retrouver tout de suite Zizi Jeanmaire, justement, dans La fin des haricots. C'est encore une des chansons de Patron qu'elle a enregistrée, elle aussi, à l'époque, sur une face d'un 45 tours.
Vienne la fin des haricots. Je sauterai dans mon vieux ta-ta-ta-ta-taco. Droit vers l'avenir en marche arrière, j'irai gadouiller dans l'ornière. Le mur, le bidon, la rascasse, tout au panier, la main pense. Rien dans les mers, rien au ciel. Me voilà tout sang et tout miel. C'est dire que devant l'église, de ce germain l'envie m'a prise. En visant les galures à noir, des ronds massés sur le trottoir. Vienne la fin des haricots. Je sauterai dans mon vieux ta-ta-ta-ta-taco. Droit vers l'avenir en marche arrière, j'irai gagner dans l'ornière. Le mur, le bidon, la rascasse, tout au panier, la mapasse. Rien dans les mers, rien au ciel. Me voilà tout sang et tout miel. Ça me tâche du hâte et j'achète le badin noir que j'ai sur la tête. Mes auteurs me font en deuil, pas encore que j'y aie l'œil. Vienne la fin des haricots. Je sauterai dans mon vieux ta-ta-ta-ta-taco. Droit vers l'avenir en marche arrière, j'irai gadouiller dans l'ornière. Le mur, le bidon, la rascasse, tout au panier, la main passe. Rien dans les mers, rien au ciel. Me voilà tout ça et tout miel. Sur un truc dans cette informide, sur la gueule et dans le mou du bide. Un coup de talon, je les ai saignés. En moins de deux, ils ont calanché. Vienne la fin des haricots. Je sauterai dans mon vieux ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vienne la fin des haricots.
Marcel Aimé répond aux questions d'André Parineau.
Une première question, Marcel Aimé. Êtes-vous un grand travailleur?
Par nécessité, pas un gros travailleur, mais enfin, je travaille.
Vous vous astreignez tous les jours à remplir un certain nombre de pages?
Oh non, pas un nombre de pages, un nombre d'heures. qui n'est pas la même chose.
Et combien d'heures par jour, en principe?
3-4 heures, c'est un maximum idéal, ça, purement idéal.
Et vous êtes un travailleur du matin, de l'après-midi ou de nuit?
Du soir, plutôt.
Est-ce que vous avez besoin de vous promener longtemps, par exemple, pour écrire? Ou est-ce que les idées vous viennent enfermées?
Enfermées. En dehors de ma page, je ne pense jamais à mon travail. Je ne pense jamais à la littérature.
Pourquoi faites-vous du théâtre?
Parce qu'un jour, j'ai eu envie d'écrire une pièce de théâtre, puis je l'ai écrite. J'en ai eu envie, c'est tout. Elle ne m'a pas réussi d'ailleurs, puisqu'elle est restée pendant 15 ans dans un tiroir.
Pourquoi vous ne faites pas de cinéma?
Si j'étais parfaitement libre au cinéma, oui. Si je pouvais le tourner déjà, mais j'en suis incapable.
Est-ce que vous savez à quel public vous vous adressez?
Pas du tout.
Vous connaissez votre défaut principal?
C'est la paresse.
Quelle est votre qualité principale?
Je ne sais pas. C'est gênant de dire ça.
Est-ce que vous êtes intéressé par les événements?
Bien sûr. Vous savez, mes idées politiques, moi, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je réponds à des questions précises. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? C'est être libre que de ne pas appartenir à un parti.
Voilà, vous connaissez cette interview,
oui,
Michel
Licureur. Oui.
Vous voyez vos expressions, vous avez l'impression qu'il en rajoute un peu, qu'il stylise un peu sa position par moment dans cette interview très amusante.
Oui, tout à fait, parce que je le soupçonne d'avoir, au cours de ses promenades, été un grand observateur de silhouettes.
Il ne travaillait pas seulement à sa table.
Non, je ne crois pas. Mais enfin, je n'étais pas dans ses pensées non plus. Hein, mais il faut rester modeste et prudent, mais quand même. Hein. Quant au théâtre, ça a été un grand désir d'écrire
pour un théâtre. Pas du tout,
puisque... Alors là, j'en suis nettement plus sûr, puisque dans tous ces papiers, dans tous ces manuscrits qu'on a retrouvés, il y a plusieurs projets de pièces dès les années 30.
En tout cas, voilà une voix inoubliable et voilà un écrivain qui parle de son travail. Vous avez fait remarquer, à juste titre, alors c'est une autre différence avec Céline, il y a la question de la guerre, mais c'est aussi que Céline, pour le coup, et c'est à son avantage, il est très prisé dans le monde universitaire, etc., peut-être à cause de cette écriture extraordinaire qu'il caractérise. Aimé, c'est toujours resté un écrivain populaire, mais finalement, est-ce qu'on le prend tellement au sérieux dans le monde littéraire?
Ça dépend ce que vous appelez le monde littéraire. Hein. Je dirais que les universitaires, mes chers collègues, ne l'ont jamais pris très au sérieux parce que son écriture est très claire, elle est parfaitement lisible.
C'est pratiquement ce qu'on lui reproche, selon une certaine conception de la littérature.
Voilà. Et surtout la littérature après-guerre.
Oui, c'est ça.
Puisque plus on était obscur, plus on avait de talent. Ouais. Or, Marcel Aimé, lui, après-guerre, a continué à écrire très clairement, très lisiblement pour tous les publics. Et j'ai trouvé des témoignages ici selon lesquels il disait que certains livres de Sartre lui tombaient des mains. Hein. C'était vraiment trop difficile pour lui. Bon, mais voyez-vous, après-guerre aussi, dans les années 50, il a été très apprécié aux États-Unis. Il a été très apprécié des critiques américains qui estimaient que c'était vraiment l'un des grands écrivains français, si ce n'est le grand écrivain français.
Voilà.
C'est assez curieux, alors que dans, personne n'est prophète dans son pays, alors que dans son pays, il est considéré comme, un écrivain de qualité, certes, mais enfin.
Mais avec toujours des œuvres extraordinairement populaires, et pas seulement les contes de Delphine et Marinette, du chat perché, mais aussi des œuvres comme Le Passe-Muraille, je pense que ça s'est toujours beaucoup vendu, ça a toujours été beaucoup lu par le jeune public notamment.
Tout à fait. Certaines nouvelles sont lues par le jeune public et plaisent beaucoup. Et ça continue de se vendre. Mais il a eu aussi, grâce à Autant Lara, le grand succès de La Traversée de Paris.
Voilà. C'est un autre tournant. Alors, il y a eu celui du théâtre, il y a eu celui des adaptations cinématographiques.
C'est ça.
La Traversée de Paris et aussi, d'ailleurs, La Jument Verte avec Bourville.
3 ans après.
Des films à très grand succès avec Autant Lara. Autre figure de ce qu'on dirait un art de droite.
Voilà, c'est ça. Oui, là aussi, Autant Lara a évolué. Hein, il faudrait suivre pas à pas son existence, comme tout individu, tout être humain.
Un jeune homme proche des surréalistes, etc.
Voilà, c'est ça.
Devenu presque Front National à la fin de sa vie.
Voilà, c'est ça.
Complexe.
Et en tout cas, quelqu'un qui appréciait beaucoup l'œuvre de Marcel Aimé. Et qui, dès 1945, ses archives qui sont déposées à Lausanne en font foi, dès 1945, s'intéressait à l'adaptation d'œuvres de Marcel Aimé. Et avait déposé des projets. Et payé, versé des droits d'ailleurs.
Ouais.
Et que ça ne s'est pas fait non plus dans ce milieu, vous savez. Les projets vont et viennent.
Et donc voilà, tout le monde est en mémoire évidemment cette extraordinaire traversée de Paris. Qui d'ailleurs, je me rappelle... avait soulevé la perplexité de Marcel Aimé quand on lui avait parlé de Bourvil, qui a été si génial dans ce film. Il n'y croyait pas au départ.
Hein. Vous êtes très aimable de parler de perplexité, parce que ça a été une opposition brutale, nette. D'ailleurs, Bourvil en était assez peiné, hein, parce que lui, il appréciait l'œuvre de Marcel Aimé. Et autant Lara, vous savez comme moi, qui avait la réputation d'être extrêmement têtu, a fini par imposer Bourvil à Aimé, Aimé qui lui a écrit « Bon, puisque c'est ainsi, vous ne mettrez pas mon nom sur l'affiche ». Et quand le film a été projeté, Aimé s'est rendu compte que Bourvil jouait magnifiquement. Et donc, il a reconnu par écrit, dans une lettre à Autant Lara, qu'il s'était trompé et que Bourvil était vraiment un très grand acteur. C'est pourquoi, peu de temps après, quand Claude Autant Lara lui a demandé l'autorisation d'adapter La Jument Verte,
ça a été tout de suite. On va retourner au Lapin Agile pour écouter Yves Mathieu dans une autre chanson de Guy Béard et Marcel Aimé. Ah, quelle journée!
Le long du quai Malaquais, un dragon déambulé, ambulé, rencontrant un avocat, il croit qu'il a les pieds plats, n'ayant rien à se dire du tout, rien de rien. Chacun passe à son chemin.
Ah, quelle journée, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien.
Une dame
toute nue,
de sa chambre est descendue. Madame lui dit l'avocat, vraiment je ne vous comprends pas, je vous trouve bien étourdi, de sortir sans parapluie.
Ah, quelle journée, destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien.
Monsieur lui répondit-elle,
bondit-elle,
vous avez bien peu de cervelle. Regardez de plus près mon nu, y a rien à y mettre de plus, assez parlé à présent, je cours m'acheter une paire de gants.
Ah, quelle journée, destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien.
Elle s'engage sur la chaussée.
La chaussée.
Un flic surgit courroucé. Criant, y a quoi devenir fou. Ma femme traverse hors des clous. Elle dit arrête-toi de crier. Tu vas nous faire remarquer.
Ah, quelle journée. La destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien. La destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien.
La dame faisant
marche arrière,
rencontra le
militaire,
qui toujours déambulait le long du quai Malaquais, n'ayant rien à se dire du tout, rien de rien. Chacun passe à son chemin.
Ah, quelle journée, la destinée, à quoi ça tient, on n'en sait rien.
Voilà, une soirée au Lapin Agile, ça continue d'ailleurs, hein, il faut le savoir,
fait,
hein, Michel L'Écureur.
Oui, c'est un endroit où on peut entendre de la bonne chanson française.
De la bonne chanson française, là, c'était donc Yves Mathieu dans cette chanson de Marcel Aimé et Guy Béard. Alors, Michel L'Écureur, je le disais, vous vous êtes voué à l'œuvre de Marcel Aimé depuis maintenant de très longues années. Hein, votre premier ouvrage, c'est de 85, La comédie humaine de Marcel Aimé. Vous avez enseigné à l'Université du Havre, vous avez réalisé l'édition de La Pléiade sur... Quelle base, au fond, où se trouvent les écrits, les notes, les correspondances, les archives, si on peut dire, de Marcel Aimé aujourd'hui ?
Hélas, cher Benoît Duteurtre, les archives de Marcel Aimé ont été dispersées.
Oui.
Il y a 3 ans, à Drouot, vous imaginez la suite, par certains membres de la famille. Je n'en dirai pas plus, mais à l'époque, moi j'ai travaillé avant, fort heureusement, j'ai pu travailler sur les manuscrits que Madame Marcel Aimé, la veuve de Marcel, donc, a mis très gentiment à ma disposition à l'époque, ainsi que sa principale héritière, Françoise Arnaud, qui était comédienne, et qui m'ont fait confiance, et
d'accord,
j'ai pu travailler sur les manuscrits.
Vous avez accédé aux sources premières, ça vous a permis aussi d'alimenter, j'imagine, les cahiers Marcel Aimé.
Absolument, oui.
Qui existe toujours ?
Qui existe toujours, oui, oui. J'ai animé principalement les 20 premiers. Ouais. Et puis j'ai passé le relais et on en est à plus de 30 maintenant.
Alors, il faut dire d'ailleurs que vous n'avez pas écrit seulement sur Marcel Aimé, mais aussi sur Raymond Queneau, sur Barbé d'Aurevilly et sur René Fallet. Je m'arrête à René Fallet un instant parce qu'il y a une photo où on voit Marcel Aimé avec Georges Brassens. Brassens, Fallet, Aimé, c'est une espèce de famille littéraire, tout,
tout
ça.
Tout à fait. Georges Brassens et René Fallet avaient la plus grande admiration, et moi je les comprends, pour Marcel Aimé. Et quand ils en parlent dans certaines interviews, c'est vraiment comme si on parlait de leur dieu ou de, d'un de leurs dieux. Pourtant, je sais si ces gens-là n'étaient pas différents
envers les dieux. Mais en tout cas, on voit d'ailleurs, oui, Marcel Aimé qui était présent aux 10 ans de carrière de Georges Brassens.
C'est ça, voilà, c'est ça. Il a fallu à l'époque trouver quelqu'un et Aimé a accepté, comme je vous le disais il y a quelques instants, il a accepté quand on lui demandait un service, quand ses amis peintres de la Butte lui demandaient une préface pour un catalogue, il a accepté. Il écrivait une vingtaine de lignes et là il a accepté et à la grande joie de Georges Brassens, qui d'ailleurs, autant que je puisse le savoir, très intimidé, n'a rien trouvé à dire à Marcel Aimé.
Ben oui, ça se passe souvent comme ça entre ceux qui s'admirent. Alors, encore une petite musique extraite cette fois-ci d'un film, vous allez nous en dire un mot, La Gamberge.
Eh bien, c'est un film qui est paru dans
les 1962.
Années 62, oui, 60, 62, et qui a pris comme refrain une chanson écrite par Marcel Aimé.
Quand un homme, quand un homme, quand un homme vous dit veux-tu être à moi, faut en somme, faut en somme, faut en somme rester sur son quant à soi, être sûr que ses sentiments sont au-dessus de la ceinture. Sans quoi vous avez perdu.
Mais quand c'est Jules, il est moins une à ma pendule. Mais quand c'est Jules, c'est tout mon corps qui déambule. Et j'oublie malheureusement tout ce joli raisonnement.
Quand un homme, quand un homme, quand un homme vous amène au cinéma, faut en somme, que ses yeux regardent droit, être sûr que le spectacle est au-dessus de la ceinture. Sans quoi vous avez perdu.
Mais quand c'est Jules, il est moins une à ma pendule. Quand c'est Jules, c'est tout mon corps qui déambule. Et j'oublie malheureusement ce qui se passe sur l'écran.
Quand un homme, un auto vous fait glisser, faut en somme, que ses vitesses soient bien placées, être sûr que sa conduite est au-dessus de la ceinture. Sans quoi vous avez perdu.
Mais quand c'est Jules, il est moins une à ma pendule. Mais quand c'est Jules, c'est tout mon corps qui déambule.
Et tu oublies malheureusement de descendre avant l'accident.
Encore une chanson donc de Marcel Aimé pour les paroles, Guy Béard pour la musique, quand un homme repris donc comme musique dans le film de Norbert Carbonneau qui s'appelait La Gamberge en 1962, Michel L'Écureur. On retrouve beaucoup de ces choses dans la grande biographie que vous venez de faire paraître de Marcel Aimé. Et puis on peut consulter aussi, si on veut voir plein d'images, alors l'album de la Pléiade que vous avez également réalisé avec plein d'archives passionnantes sur Marcel Aimé. Et alors on y voit un certain nombre d'autres figures, et notamment là on voit encore bon goût de Marcel Aimé, la présence de Serge Gainsbourg.
Oui. Marcel Aimé avait été sollicité pour écrire un petit texte sur une pochette de disque. Et donc, il s'est exécuté très gentiment. Et c'était au début de Gainsbourg.
Voilà, premier disque de Gainsbourg.
Il a bien senti la personnalité de Gainsbourg.
Il a écrit donc ce texte, d'ailleurs, qu'on voit de sa main. J'ai le disque là, au dos du premier disque de Gainsbourg. Serge Gainsbourg est un pianiste de 25 ans qui est devenu compositeur de chansons, parolier et chanteur. Il a chanté l'alcool, les filles, l'adultère, etc., etc. Et c'est très joliment présenté. Toujours ce goût donc de cet homme pour la chanson.
Pour la chanson, oui.
Un autre personnage qui aime aimer apparemment, qui s'appelle Marcel comme lui, c'est Mouloudji.
Ah oui, qui a écrit une chanson assez délicieuse, à mon avis, sur Marcel. Mouloudji, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Montmartre, à la fin de sa vie, et qui, effectivement, nourrissait beaucoup de tendresse pour Marcel.
Alors, on va peut-être écouter cette chanson intitulée, justement, « Chanson pour Marcel ». Et c'est comme un portrait de Marcel Aimé. Ouais.
De tous les cimetières, celui que j'ai aimé, celui où je voudrais vivre un peu ma mort, c'est celui où demeure Marcel Aimé, qui fait le grand dodo près de l'avenue Junot. Je ne lui dirai pas que je suis content de le revoir, j'osais déjà pas avant qu'il se laisse choir. Peut-être qu'au néant on aura tout le temps s'expliquer un brin, d'être un peu causant. Je me demande ce qu'on fera pour tuer les heures, pendant que les vivants nous feront la visite. Lui qui est pas bavard, moi qui ai du cafard, aura-t-on là-bas des petites armes sœurs? Le soir a-t-on le droit de faire la mort buissonnière, à l'heure où l'on ferme les cimetières et les scoires, pour écouter de la vie le bruit illusoire, et chauffer nos os au Paris lumière? Pourra-t-on grimper tout en haut de la butte, jouer à chat perché et passer les murailles, et dans nos poitrines écouter la flûte du vent de la France au parfum de blé, donner le bonsoir dans la langue des morts à tous nos copains qui vivront encore, ou à nos enfants, ou même aux passants? Personne ne le saura, nous, on ne voit pas. Au cocorico, on filerait au trot, dans le joli hôtel, on ferait le mur, on serrerait les os, on se dirait à demain, je serais si content d'être enfin de ses copains. De tous les cimetières, celui que j'ai aimé, celui où je voudrais vivre un peu ma mort, c'est celui où demeure Marcel Aimé, qui fait le grand dodo près de l'avenue Junot.
Et oui, c'est effectivement le cimetière Saint-Vincent, donc où on peut voir la tombe de Marcel Aimé, Michel Lécureur, auquel vous consacrez beaucoup de travail depuis de longues années, notamment cette biographie qui vient de reparaître, et puis ce petit livre Marcel Aimé devant l'histoire, où l'on voit aussi que Aimé, par exemple, n'aimait guère l'américanisation de la société française. Ça, c'était aussi une de ses hantises.
Oui, il a été invité dans les années 50 à parcourir l'Amérique. C'est le magazine Colliers qui lui avait dit qu'on lui payait tous ses frais en échange de quelques textes, quelques nouvelles sur l'Amérique. Et donc, il y est allé, il a vu, il a discuté avec des journalistes,
il est rentré absolument catastrophé par la vie mécanisée, par le peu de droits sociaux.
Le racisme.
Le racisme. Alors là, le racisme, ça l'a vraiment marqué. Ouais. Il en a fait des pièces, d'ailleurs, Louisiane, par exemple. Et il en a conçu une sorte de système de pensée discutable, parce que elle manquait un peu de nuances par moment, mais qui a fait qu'il était vraiment classé comme un anti-américain.
Décidément, il était classé dans des cases qui ont permis évidemment de le combattre assez souvent comme un homme un peu, réactionnaire au fond.
Oui.
Alors que c'est surtout dans son œuvre, en tout cas, un libre penseur, un ironiste, un homme qui regarde la complexité des choses.
Oui, et puis qui ne s'attarde pas aux préjugés, qui essaie de se faire son opinion à chaque fois, au vu et au su de ce qui existe réellement.
Et puis un maître de l'imaginaire, parce que dans cette littérature française qui est souvent très intimiste, assez narcissique, c'est quand même un des hommes qui a ouvert les portes du rêve et de la fantaisie.
Oui, absolument. Et il avait une capacité d'imagination assez fabuleuse et surtout une capacité d'expression de cette imagination.
Et de développement de la logique, de logique absurde aussi.
C'est ça. Ouais. Et il part sur un mot, un certain du Tilleul avait le pouvoir de passer entre les murs, et après il bâtit tout là-dessus. Voilà. Et c'est parfaitement cohérent, parfaitement logique. Ça, c'est extraordinaire.
Le personnage avait l'air quand même très difficile à aborder. Il parle peu, il a ce visage un peu fermé, etc. Oui. Et il était seul dans la vie?
Non, il avait des amis, et il a eu beaucoup de conquêtes féminines. Ouais. Non, il était très sociable, mais très réservé. Il décontenançait les gens par sa timidité naturelle. Hein.
Ouais.
C'est un grand timide. Ouais. Vous savez, comme les timides qui, au moment M ou T, ne savent pas quoi dire, parce qu'ils ont tellement de choses à dire, ou parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'à propos.
Voilà, et tout cela, donc on le retrouve, je le dis, dans votre biographie, et on va d'ailleurs le retrouver pour finir dans la voix de Marcel Aimé lui-même, avec la suite de cette interview par André Parino, où il se dépeint de façon très très amusante. Et puis ensuite, on écoutera Richard Galliano, qui a rendu un hommage à Marcel Aimé.
C'est ça, Richard Galliano a toujours été un très grand admirateur de Marcel Aimé, et il a tenu à lui rendre hommage en jouant un morceau qui avait été choisi, qui avait été conçu pour Patron.
Voilà,
et qui s'appelle Liberté.
De patron, Liberté. Merci d'avoir été avec nous, Michel Lécureur.
Est-ce que vous êtes timide?
Je le suis un peu, oui.
Si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous?
Je ne sais pas. Je crois qu'on est écrivain parce qu'on ne sait rien faire d'autre.
Marcel Aimé, vous aimez le commerce des hommes?
Pas exagérément. Non, je ne leur reproche rien, mais enfin, je me vivre seul.
Vous êtes misanthrope?
Pas du tout, absolument pas.
Vous n'aimez pas la conversation?
Si, enfin, avec un nombre de gens assez limité.
Est-ce qu'il vous arrive de rire, de plaisanter, de bavarder un quart d'heure sans vous interrompre, avec des amis, s'entend?
C'est-à-dire parlant tout le temps? Non, ça m'arrive pas un quart d'heure, non, c'est au-dessus de mes forces.
La liberté est une fleur, c'est l'hommage de Richard Galliano à Marcel Aimé. Alors je ne saurais trop vous recommander de lire et relire les œuvres de Marcel Aimé. Et puis si vous aimez ses chansons, eh bien vous pouvez les retrouver notamment dans les compilations de Guy Béard. Et enfin, vous pouvez lire donc de mon invité Michel Lécureur la biographie, nouvelle version de la biographie de Marcel Aimé en 2 volumes aux éditions Edilivre et également chez Edilivre, un livre sur les positions disons politiques de Marcel Aimé qui s'intitule « Marcel Aimé devant l'histoire ». Die Schwebende, autrement dit celle qui plane, mais alors qui plane vraiment très très lentement au rythme de la polka mazurka, cette danse très lente dont le roi incontesté est Joseph Strauss, le petit frère de Johann, donc dans cette belle composition interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Zubin Mehta. Et encore une petite page d'opérette avant de retrouver notre ami Serge Elaïc. J'ai choisi aujourd'hui pour vous un extrait des Petites Michues, ravissante opérette d'André Messager, un an avant Véronique en 1898. On va écouter le final du deuxième acte, au cours duquel justement une des deux Petites Michues, Marie-Blanche, découvre qu'elle est en réalité la fille du général des Ifs.
Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille, mon enfant.
Recevez notre compliment, c'est une fille ravissante. Recevez notre compliment, c'est une fille
Nadine Renaud dans le rôle de Marie Blanche, Lucien Levaneau dans le rôle du général avec les chœurs Raymond Saint-Paul, l'association des concerts L'Amoureux sous la direction de Jules Gressier. C'était un extrait des Petites Michues d'André Messager. Il paraît qu'il y a un projet pour que ça soit remonté. J'aimerais bien voir ça un de ces jours sur scène. C'est vraiment de la très très jolie musique. Mais nous avons maintenant rendez-vous sans plus attendre avec Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je crois que vous nous emmenez en voyage.
Exactement.
C'est les beaux jours qui commencent.
Exactement. Je vous propose donc un petit voyage sur le pourtour méditerranéen pour ces périodes de vacances de printemps. Mais avant notre départ pour une première destination, eh bien André Pop, je sais que vous l'aimez beaucoup, nous rappelle que tout voyage se prépare avec soin et en sa compagnie, nous allons faire d'abord quelques emplettes à Paris.
Shopping in Paris, c'est le nom de ce morceau d'André Pop en 1963. Nous sommes avec Serge et Laïc. Les courses à Paris, voilà, ça y est.
C'est fait, alors on va partir. Première étape, l'Espagne. Eh oui, l'Espagne, il fait beau. Alors on va s'arrêter sur la Costa Brava. Et avec l'aide des 50 guitaristes de Tommy Garrett, je vous assure qu'il n'y en a pas un de moins. Prenons le temps sur le bord de mer de méditer un moment. Thank you.
Meditación, c'est bien comme ça qu'on dit, oui, hein, Sage Laïque, pour un morceau espagnol,
et oui.
Avec les 50 guitares de Tommy Garrett, une composition d'Antonio Carlos Jobim enregistrée en 1965.
Avec des guitaristes formidables comme Tom Tedesco, qu'on entendait en solo, Lorindo Almeida, Barney Kessel et beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, alors, le périple se poursuit et d'un coup d'aile, nous atteignons Monte Carlo, un des quartiers de Monaco, rendez-vous mondain évidemment, rendez-vous mondain international avec élégance, charme et culture, particulièrement culture musicale. D'ailleurs, Monte Carlo a inspiré depuis toujours une foule de musiciens, entre autres Burt Kampfert, le créateur de la musique de Strangers in the Night, mais aussi auteur d'une belle musique vouée à ce quartier où se trouve le célèbre casino.
Carlo de Burt Kampfert avec Manfred Mock à la trompette, un enregistrement de 1964, parce qu'aujourd'hui, Serge et Laïc nous emmène en voyage sur les rives de la Méditerranée au son des grands orchestres de divertissement.
Alors là, c'est la Grèce maintenant, berceau de grands compositeurs comme Mikis Theodorakis, musicien aux multiples facettes. Alors, en 1968, le réalisateur Costa Gavras souhaite utiliser pour son film Z des musiques de Theodorakis, mais ce dernier étant détenu comme prisonnier politique là-bas, c'est le français Bernard Gérard qui eut la charge d'orchestrer les mélodies de Theodorakis et de diriger l'orchestre qui enregistra donc le score de ce film Z, film qui retraçait l'assassinat d'un député de gauche en Grèce. Alors, en 1970, eh bien, désormais en exil en France, Mikis Theodorakis avait été reçu par Jacques Chancel dans son émission Radioscopie et il lui avait demandé, entre autres, si c'est en prison ou lorsqu'on souffre que l'on a véritablement du génie dans l'écriture musicale.
C'est-à-dire, moi, j'ai écrit de la musique dans toutes les périodes, c'est-à-dire dans la prison, dans la joie, dans la gaieté. C'est-à-dire, c'est aussi un mythe qu'il faut être triste, qu'il faut être pauvre aussi, il faut être affamé pour écrire de la bonne musique. J'ai l'impression que la mort de Mozart, il pèse lourd sur la conscience des bourgeois qui l'ont laissé de plus grands génies de leur époque mourir de faim. Alors on a inventé cette mythe qu'on a laissé être pauvre parce que quand il était affamé, il écrit mieux la musique. J'ai l'impression que la musique qu'on n'écrit pas quand on a faim d'abord.
Thank you.
Un extrait de la musique du film Z par Mikis Theodorakis qu'on a entendu juste auparavant, qu'on connaît aussi évidemment par Zorba le Grec, mais c'était bien de l'entendre parler comme ça, Serge Laïc.
Tout à fait. Alors, pour achever cette jolie balade, arrêtons-nous un moment à Venise pour écouter la superbe mélodie du compositeur Stelvio Cipriani, musique conçue pour le film Anonimo Veneziano et reprise ici par Alfred Dauzé et son grand orchestre.
Anonimo Veneziano par l'orchestre Alfred Hauser, c'est une musique de 1972 que vous avez choisie pour finir ce voyage en Méditerranée ce matin. Merci Serge Laïc.
Merci à vous Benoît et à très bientôt.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Pierre Monteil, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, je vous rappelle que nous sommes en public avec un bataillon de jeunes accordéonistes à la Grande Halle de la Villette. Alors venez tous regarder Étonnez-moi Benoît et surtout écoutez la musique que nous aurons choisie pour vous. Bon week-end à tous. Et sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.